Vous écoutez toujours Radio Campus Tours 99.5 FM. On est ici à la Galerie Neuve pour l'exposition organisée par Pipo dans le cadre du Festival Plume d'Afrique. Et nous allons maintenant écouter une petite lecture dans le cadre de Plume d'Afrique. Bonne écoute.
Nous sommes le cœur des lectrices et lecteurs. Je suis tout seul ce soir comme lecteur, mais j'apprécie cette chance. Du Festival Plume d'Afrique, nous avons lu déjà 6 ou 7 fois des enregistrements sur différentes radios. Et ce soir, on va vous présenter quelques textes d'auteurs qui viennent au festival ou qui sont venus au festival ou qui auraient pu venir au festival ou qui sont nos coups de cœur. Et pour commencer, le fil rouge de cette lecture, ce sont des proverbes qui viennent d'un roman policier de Florent Kouaou-Dzoti, qui s'appelle « Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au porc de le dire ». Le titre est déjà un proverbe. En voici un. « Celui qui se baisse pour voir le postérieur de son voisin ne sait pas qu'il expose le sien à tout le monde ».
Deux léopards ne se promènent pas dans la même forêt.
La brebis broute l'herbe là où on l'attache.
Qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir.
C'est en voulant s'asseoir qu'on connaît l'utilité des popotins.
Tous les coqs qui chantent ont d'abord été des œufs.
Quand on n'a qu'une lance, on ne s'en sert pas contre un lion.
Un premier texte d'un auteur qui est venu déjà il y a quelques jours au LAC, qui est l'atelier de littérature contemporaine, qui se réunit au centre de vie du Sanitas. Donc voilà, on lui devait bien cet honneur. En plus, c'est un auteur qu'on aime beaucoup. C'est Mohamed Mbougar-Sarr et c'est « Silence du cœur ».
La grande lumière du soleil me tira du lit de sable chaud et de mes rêves. Je quittais mon abri et longeais la plage. La mer. La veille encore, elle était le lieu le plus laid qui soit, le lieu de ma possible mort. Et le jour suivant, elle resplendissait d'une inaltérable beauté.
Il faisait aussi chaud sur cette plage que le jour où nous étions partis de la Libye. C'était avant l'aube. Nous étions une 60aine. 60 ombres cachées derrière un grand conteneur, et nous attendions le signal. Il régnait un silence absolu, car Hamid, le passeur, nous avait dit que le signal serait sonore, 2 brefs coups de sifflet. Alors, chacun les guettait, chacun sondait le frémissement de l'air, à l'affût du moindre bruit de sifflet. C'était la 3e tentative de départ que nous faisions au cours de la semaine.
La première fois, après avoir couru 6 kilomètres jusqu'à la barque, notre départ fut annulé. Au moment où nous étions en train d'embarquer, un guetteur, un homme de main d'Hamid, avait crié « La police est là !» Nous avons tous dû fuir dans le désordre le plus absolu. Nous savions qu'être attrapé par la police, quand on était un réfugié noir, c'était dire adieu à son voyage, voire à la vie. Ce jour-là, nous étions 71 candidats au départ. 11 furent arrêtés par la police. On ne les a plus revus.
La deuxième fois, on devait commencer à courir vers la barque, amarrée à 10 km, à 6 heures précises. Hamid nous avait dit que la barque démarrerait à 6h45. Il fallait donc couvrir les 10 km en 3/4 d'heure. Tant pis pour les essoufflés. Dès 6 heures donc, nous nous étions tous lancés, éperdus vers la barque. C'était une course contre le cauchemar, la Libye. La course vers le rêve, l'Europe. La course contre soi, contre sa faiblesse physique, sa fatigue, son manque de détermination. Je me demande à quoi nous ressemblions. À un troupeau de bêtes, un troupeau humain, aucune différence. Nous avons tous réussi à arriver à temps ce jour-là. Mais une nouvelle fois, nous n'avons pas pu partir à cause des mauvaises conditions de navigation. Trop de vent. Le neveu d'Amide, nous ignorions alors que c'était un imposteur, refusa de prendre la mer.
Nous dûmes repartir dans les banlieues sordides de Tripoli, en attendant les nouvelles consignes d'Amide, notre passeur. Ce dernier ne tarda pas à se manifester. Le même jour, il vint nous voir et nous annonça que la surveillance des côtes était renforcée. Si nous voulions partir, il faudrait que chacun lui remette une certaine somme en plus. C'était ça, ou rester encore des mois à son service, pour payer la prochaine tentative de départ. Oui, nous étions tous à la solde d'Amide, comme manœuvre ou docker. En contrepartie, il nous logeait dans des appartements sordides de Tripoli et s'occupait de nous trouver une barque. Nous n'avions pas le choix. C'était ça, ou être à la rue et à la merci de bandes armées, du racisme, du mépris, des humiliations, de la guerre.
Amide était un riche négociant. C'était un petit homme gras, aux mains replètes, aux doigts courts et couverts de grosses bagues. La bonne chair dont il était coutumier transparaissait dans ses joues pleines, gonflait dans ses lèvres vulgairement bombées et s'entassait pêle-mêle dans les trois ou quatre paliers de chair qui s'étageaient sous son petit menton barbu. Mais quand ses petits yeux se plissaient et qu'au coin de ses lèvres trois plis s'esquissaient, ce physique un peu comique disparaissait et il devenait l'homme le plus méchant du monde. Tout chez lui n'était qu'ivresse, cupidité, vulgarité, cruauté. C'était un geôlier. Ce jour-là, donc, il nous posa ses conditions. Payer et partir rapidement, ou bien rester là. Continuer à travailler pour lui et partir plus tard, si on survivait jusque-là.
On se plaignit. Impossible de donner cette somme. Pour toute réponse devant nos protestations, Amide caressa sa barbiche, plissa les yeux et eut son rictus inhumain. Nous savions tous alors que c'était foutu. Fallait payer pour partir. Il nous laissa 2 jours pour réunir chacun la somme. Beaucoup furent obligés, honteux, d'appeler leur famille restée au pays pour solliciter une énième aide. D'autres baradèrent les seuls objets de valeur qu'ils avaient encore. Certains, visages sombres, partirent dans la nuit et revinrent avec la somme, et même plus, sans qu'on ne sût jamais ce qu'ils avaient dû faire pour l'avoir. Quant aux derniers, ceux qui n'avaient aucune solution, ils furent aidés par ceux qui avaient pu réunir plus que nécessaire. Moi, j'ai dû vendre un des bracelets de ma mère au marché noir de Tripoli, un bracelet en or que ma mère m'avait fait faire et que j'avais promis de toujours porter sur moi. 2 jours plus tard, lorsqu'Amide revint, nous avions tous l'argent nécessaire. Et le lendemain, à l'aube, derrière le conteneur, nous attendions anxieusement les 2 coups de sifflet dans un pesant silence.
Ils retentirent soudain, secs et brefs. Il s'écoula alors quelques secondes au cours desquelles chacun hésita, trahit un mouvement brusque, se demanda s'il avait bien entendu, guetta chez son voisin un signe ou une parole de confirmation. Plus décidé, un homme s'élança. Le troupeau suivit. Et la course reprit, mécanique dans sa gestuelle, mais humaine, profondément humaine. Il fallait courir pour survivre, courir ou crever. Ce jour-là, nous pûmes enfin partir, silencieux, craignant d'attirer le mauvais œil si on se réjouissait trop vite. Il faisait chaud, aussi chaud que sur cette plage où je m'étais échouée et que je longeais seule.
À présent, on va vous lire à trois un poème d'un slameur, poète, peul, qui s'appelle Souleymane Diamanka, Et Souleymane Diamanka sera samedi soir à l'espace Malraux, sur scène, avec sept autres musiciens, écrivains, poètes, pour un spectacle unique. Je ne pense pas qu'il aura lieu deux fois, parce que pour rassembler ces huit personnes, Rahariman, Wilfried Sondé, Kofi Efoui, Sof El Badawi, Isabelle Fruleux, Souleymane Diamanka, Capitaine Alexandre, ça sera exceptionnel. Ça s'appelle Paroles et Chants, c'est 20h30 à l'espace Malraux au moment du temps fort du festival. Voilà donc le texte de Souleymane. Si toi aussi, ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel.
Si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art enseigne.
Si toi aussi tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau.
Si toi aussi tu songes que la paix se prépare bien en amont, là-bas, dans les poèmes d'amour.
Si tu es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravoure, car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure.
Alors, tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau.
Si toi aussi, dans le silence de la cité, tu sollicites les étoiles pour qu'elle te situe.
Quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue.
En relevant les empreintes digitales de l'histoire.
En recherchant des gens qui te ressemblent dessus.
Alors, souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Parce que la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs. Et que cette sève-là se savoure. Il est temps d'être humain autrement et de remettre au monde notre amour.
À présent, un texte extrait du dernier roman de Rahariman. Rahariman est un auteur qui vit à Joué-lès-Tours, qui travaille aussi sur le secteur, mais qui est malgache. Et son dernier roman en date, c'est Revenir. Et vous allez en entendre quelques extraits.
Alors, extrait du cahier 7, lire, des caisses d'oranges et une barrique en métal. Ir n'oubliera jamais ce jour où son père était rentré à la maison avec des caisses de livres. C'était des caisses qu'on utilisait habituellement pour les oranges. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Elles étaient venues en voiture spéciale, une 404 blanche remplie à ras-bord. Devant, il y avait le chauffeur et son père. Derrière, les sièges avaient été enlevés, les caisses s'y étaient empilées, le coffre était blindé. La voiture était dangereusement basse.
Lentement, avec précaution, elle remontait la petite pente de terre vers la maison. Les grands avaient poussé la voiture par jeu et par habitude. Beaucoup de voitures calaient à cet endroit et les enfants étaient toujours là pour un coup de main. Ir, trop petit, n'avait pas le droit de pousser, mais criait pour encourager tout le monde. La 404 n'avait pas vraiment besoin d'aide, mais c'était une occasion pour les enfants de toucher la voiture. Une voiture, surtout une 404, ce n'était pas un courant dans la cité. La voiture s'était garée en marche arrière, juste avant le canal qui séparait la route des lotissements. Ir avait une chienne qui gardait cette frontière. Elle avait commencé à montrer les clos, les crocs et à gronder. Mir lui avait dit de se calmer. Ce sont des livres.
Les autres garçons étaient étonnés, déçus. Ils pensaient que c'était des oranges. Ils allaient repartir quand ils s'aperçurent qu'il y avait aussi des Amblas, des Tarzans et autres Black le Roc. L'excitation était réelle. Tous se mirent à aider à porter les caisses dans la maison. Ir courut vers chez lui. Sa mère était là, devant son père. « Tu m'avais dit que c'était quelques livres. »« Oui, quelques livres, » répondit son père, penaud, coupable. « Je n'ai pas de place ici, » reprit sa mère, « et tu n'as pas de bibliothèque. » On les empile d'abord là, contre le mur, à l'endroit où on a prévu de mettre la bibliothèque.
Ir l'a pris plus tard. Les Français avaient quitté en masse le pays dans les mois qui avaient suivi la chute du président Tsiran. On célébrait la révolution. On chantait la malgachisation. On fêtait la fin du néocolonialisme. Les Français perdaient leurs privilèges. Nombre de leurs entreprises furent nationalisées du jour au lendemain. À l'université, des professeurs étaient partis précipitamment, en confiant ou en abandonnant leur bibliothèque au père de Ir. Le père de Ir enseignait l'histoire et la sociologie. À son arrivée dans la capitale, il avait débuté comme chargé de documentation et responsable de la bibliothèque embryonnaire. Puis, il en avait profité pour reprendre ses études.
Les grands débarquaient les caisses comme si c'était un jeu. La 404 était repartie pour un autre voyage. Cela avait duré toute la matinée. Et bientôt, à l'emplacement qui serait celui de la bibliothèque, les caisses s'empilaient jusqu'au plafond. « Alors, que fais-tu maintenant ?» demanda la mère de Ir à son père. « Oh, ben, il y a bien l'armoire en haut. L'armoire, c'est pour les vêtements. Écoute, c'est provisoire. 20 ans après, les livres y étaient toujours dans l'armoire. »
L'odeur de la maison changea tout de suite. Une odeur qui imprégnait dès l'entrée. Une odeur d'encre et de papier. Et d'autres senteurs que Ir ne parvenait pas à identifier. Une odeur d'eau, paradoxalement. Une eau emplie de terre ou de coquillages, de coraux ou d'autres matières de l'océan. C'était étrange. Et des odeurs de monde inconnues pour Ir, des odeurs de voyage, des odeurs de lointain, et des odeurs d'hommes, et des odeurs de cigarettes, des odeurs d'autres maisons, d'autres épices que sa mère n'utilisait pas, et des odeurs d'autres pays dont il ne pouvait connaître le nom, des odeurs qui n'étaient pas d'ici.
Donc, comme vous voyez, Plume d'Afrique vous fait voyager. Un nouveau voyage va nous être proposé par un auteur dont vous avez dû entendre parler, je pense. C'est Felwyn Sarr. Felwyn Sarr est l'une des deux personnes qui est en charge, qui était en charge par le président Macron de la restitution des objets d'art la colonisation, les guerres ont pris, volé à l'Afrique. Et Felwyn Sarr sera ce soir à 20h30 au Centre social pluriel, au 2, c'est ça ? Au 2, pour un café Géo. Et demain à 19h45, il est au studio, au CNP, pour un débat autour du film d'Arte sur les eaux humains. Et puis évidemment, Felwyn Sarr sera sur scène aussi samedi soir. Et en rencontre dimanche. Donc vous voyez, vous avez l'occasion de le rencontrer. Là, voilà un texte qui s'appelle Nourou et qui, comme celui de tout à l'heure, de Mougar Sarr, évoque le problème de l'exil vu du côté de l'Afrique. Le vendeur s'était soudainement redressé. Il m'avait décoché un de ses regards interrogateurs. « Pourquoi veux-tu un blouson d'hiver alors qu'on est en pleine canicule ? Tu veux tenter l'aventure, toi aussi ? Dans ce cas, c'est un blouson Sahara qu'il te faut, un blouson qui te tient chaud la nuit et qui ne t'étouffe pas le jour. Crois-moi, j'en ai vendu beaucoup ces dernières années. Je fais même venir des containers de Dieppe remplis de ces blousons-là. Ils partent comme des petits pains. Mon frère, n'oublie pas de recueillir la prière de tes parents et les bénédictions de ton guide spirituel avant de prendre la route. »
Naroki était sur le seuil de la porte. Son visage trahissait une émotion qu'elle tentait de me dissimuler. Elle se disait qu'à son âge, probablement, elle ne me reverrait plus. « As-tu suivi les recommandations à la lettre de Djibi Diallo ?»« Nourou, il faut les suivre telles qu'il les a prescrites. » De la cola blanche et rouge à offrir à un homme pieux, une bouillie de mil et du lait caillé. Que tu serviras à des jeunes enfants cet après-midi. Une pièce en argent sur laquelle tu formules des vœux et que tu jetteras dans la mer avant de prendre place dans l'embarcation. Et une fois que tu auras fait tes adieux à ceux qui te sont chers, tu ne te retournes plus. Et tu ne réponds plus à aucun salut jusqu'à ce que tu arrives en face de la mer.
Hier, j'ai vu Soukena. Nous avons passé une partie de la soirée ensemble, sur le banc, dans la cour. Il faisait un peu frais. Elle avait mis ce col que tante Nafi lui avait rapporté de la Mecque. Elle m'a fait du thé. Malgré sa pudeur, elle s'est un peu approchée de moi. J'ai senti sa cuisse chaude effleurer la mienne. Ce soir, elle n'est pas très bavarde. Les jours précédents, nous avons longuement parlé d'absence, de fidélité, de manque, de destinée. Elle m'a dit que si mon chemin passait par là, il fallait que je le prenne. Elle promet de m'attendre une éternité s'il le faut. Ses frères et sa famille ne sont pas au courant que j'ai décidé de partir. Ils seront certainement déçus. Ils nous voyaient déjà mariés.
Il est 23 heures. Je n'ai pas terminé ma tournée d'adieu. Je dois passer voir Doudou à Amitié 2. Il est toujours avenant et équanime. Toujours de bons conseils. Une sagesse sans prétention et un regard lucide sur les choses. Nous avons plusieurs fois discuté de cet exil qui est devenu le principal jeu de toute une jeunesse. Barça ou Barsax. Une partie dans laquelle ils engagent toute leur vie. Tout gagner ou tout perdre. Passer leurs après-midi sur les terrains de foot, sur le banc du quartier à boire du thé, parler de politique, de sport ou de religion ne leur suffit plus. Doudou n'y a jamais été favorable à ce jeu qu'il a une fois comparé à une roulette ou à galèse. Comment lui dire que finalement j'ai décidé moi aussi de tenter la partie ?
J'ai versé la somme au passeur. Le rendez-vous est fixé à 2h du matin à Thiaroy, sur la plage. J'ai confectionné une ceinture en plastique où j'ai glissé ma carte d'identité et mon argent. J'ai des euros et des dollars. J'y ai aussi mis mon adresse, le nom et le numéro de téléphone de ma mère, ainsi que celui de Soukeina, au cas où. Je n'ai pas oublié l'indicatif du pays pour qu'ils puissent les joindre. La pirogue doit d'abord nous emmener sur les îles du Gandin. De là, nous partirons vers l'Espagne, qui est à 6 jours de navigation. Les gens des îles sont les meilleurs conducteurs de pirogues. Ils connaissent cette partie de l'océan et ses secrets. Depuis 2 ans, m'assure-t-on, aucune pirogue conduite par eux ne s'est perdue.
À mon arrivée, mon cousin de Almeria viendra me chercher. Je pourrai loger chez lui. Il me présentera au propriétaire de l'exploitation agricole où il travaille. Ils ont souvent besoin de main-d'œuvre, m'a-t-il dit. Sinon, j'irai chez un autre cousin qui vit aux Canaries. Dans leur bateau de pêche, ils ont aussi besoin de bras. Le travail est dur, paraît-il, et les jeunes Espagnols ne souhaitent pas le faire. Mon cousin m'a dit qu'une fois que nous serons arrivés, ils nous garderont dans les centres de la Croix-Rouge pendant 2 mois et nous relâcheront. Parfois, ils en choisissent certains et les rapatrient. Mais pour la plupart, paraît-il, c'est la liberté.
Les gars étaient déjà sur la plage, emmitouflés dans leur blouson Sahara, silencieux, telle une armée des ombres déterminée à tout braver. Ce rêve que je faisais assis sur les bords de route, quelque part en Espagne, me revint. Cette fois, c'était Nabou, souriante dans sa petite robe bleue, qui vint me voir. Elle me fit signe de la suivre et se mit à courir. Chaque fois que je tentais de la rattraper, elle disparaissait dans une foule, un marché, se dérobait derrière une porte et j'entendais son rire s'éloigner. Une tape dans le dos me réveilla. C'était Doudou. Il m'attira contre lui, me tint longuement la main, me donna un iPod contenant tous les sons de Marley. « Tu écouteras ton gars durant la traversée et tu verras, » dit Nabax. « Ça ira, » dit-il en souriant. En partant, il me glissa un petit sac en plastique qui contenait une liasse. Je crus reconnaître la tête de Benjamin Franklin. C'est autant que bien des billets de $100 US. Les matelots nous bousculèrent. Il fallait embarquer. La marée allait redescendre. Je jetai mon sac dans l'embarcation, la pièce d'argent dans l'eau, et enjambai le rebord de la pirogue que son propriétaire avait nommée Agnès, sans doute du prénom d'une femme aimée. Une émotion me serra le cœur.
Pour terminer, un extrait de Cantique de la Acacia, de Kofi Efoui, qui lui aussi sera sur scène samedi soir à l'espace Malraux avec les 7 autres.
L'histoire est aussi faite de tours de magie, dit Silvano. Le sentiment d'indépendance qu'avaient les jeunes gens comme lui, c'était de reprendre possession de leur propre corps, bien plus que des terres dont leurs ancêtres avaient été expropriés, mot insensé pour ceux dont les ancêtres n'avaient jamais cru à la propriété de la terre. La repossession du corps, bien plus que de ces pays fraîchement souverains, à la tête desquels, dans l'intérêt du cuivre, dans l'intérêt de l'or, dans l'intérêt du phosphate, dans l'intérêt du diamant, ont placé des hommes forts, des gueules de présidents étalées dans les journaux.
Un ancien combattant, mercenaire de la guerre française en Indochine et en Algérie, président au Togo.
À demi-solde de l'armée française, fasciné par Napoléon Ier, président en Centrafrique.
Un prince coutumier qui avait, à l'âge de 10 ans, le droit de fouetter les domestiques de son père et qui se vantera plus tard de jeter ses adversaires aux crocodiles de son étang, président en Côte d'Ivoire.
Un barde, président au Sénégal.
Un ancien boxeur, poids lourd et lourdement psychopathe, président en Ouganda.
Un abbé, président au Congo. Un abbé, président au Congo.
Un abbé, non. Drôle de gueule, désigné pour rejoindre l'international des puissants. Ceux qui disent « nous », les dirigeants de la planète, comme si leur charge consistait à influencer la tectonique des plaques, la dérive des continents, le magnétisme de la Terre et l'intelligence des abeilles.
Merci de votre attention.
Nous allons donc maintenant faire une pause musicale. Nous sommes toujours en direct de Merci beaucoup Textile dans la place sur Radio Campus Tour 99.5. À tout de suite.